Europe 1.
Aujourd'hui, près de la moitié des violences physiques ou sexuelles sont commises au sein de la famille. Des femmes, la plupart du temps, des enfants et des hommes aussi parfois, ont subi l'impensable de la part de leurs proches. Certains ont eu la chance de s'en sortir et le courage de se relever. Pour les victimes qui n'ont pas survécu, ce sont ceux qui les aimaient qui doivent maintenant se reconstruire. Comment vivre après le meurtre d'un membre de la famille? Comment surmonter la culpabilité et le sentiment d'impuissance? Et quelles sont les conséquences sur les victimes pour leur vie future? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Nathalie. La vie de cette mère de famille a basculé la nuit où sa fille s'est violemment fait agresser par son ex-compagnon dans une forêt. Je suis Olivier Delacroix. Vous écoutez le podcast « Dans les yeux d'Olivier ». Alors soyez les bienvenus. Nathalie, bonjour.
Bonjour Olivier.
Comment allez-vous?
Ça va, merci.
Merci de nous accueillir ici, dans cette région. Alors si vous avez accepté de nous recevoir pendant ces quelques jours, c'est pour évoquer votre histoire, qu'on ne peut pas dissocier de celle de votre fille Aurélie, qui en 2007 a perdu la vie à la suite d'une agression...
Violence conjugale qui, malheureusement, elle n'est plus là pour en parler. Elle a vécu pendant quelques années avec un agresseur, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et il a eu raison d'elle. Moi-même, j'ai été femme battue pendant 15 ans. Malheureusement, Aurélie, elle a suivi le même chemin que moi. Elle, en pire, malheureusement, parce que moi, je suis là encore aujourd'hui pour en parler, mais Aurélie, elle, non, quoi.
Vous vous ressembliez assez, toutes les deux?
On on était très... ma première, quoi, donc... Enfin, on m'a enlevé beaucoup de choses. Le jour où on m'a enlevé beaucoup de choses, oui. On m'a enlevé de la gaieté, on m'a enlevé de la bonne humeur, on m'a enlevé... beaucoup de choses.
On va chez vous?
On y va.
Allez. Aurélie, là, elle avait quel âge, là? Donc, 18, non?
Oui, à peu près, oui. Donc là, c'était son dernier anniversaire avec ses deux sœurs. Donc c'était le jour de ses 20 ans.
Aurélie est encore mineure lorsqu'elle tombe amoureuse. Une histoire d'amour qui dure et qui donne bientôt naissance à une petite fille. Mais pour Nathalie, le compagnon d'Aurélie se révèle très vite d'un tempérament trop possessif.
Je me souviens quand elle l'a ramené à la maison pour me le présenter, enfin nous le présenter, il était sympa. Il arrivait décontracté, rien à dire, poli, gentil, voilà. Bon, ce qu'aurait dû me mettre la puce, c'est quand il a voulu qu'Aurélie arrête l'école.
Pour quelle raison lui demande-t-il d'arrêter l'école?
Parce qu'à l'école, forcément, elle va avoir du monde, elle va... Et puis Aurélie, elle était belle comme tout, donc elle plaît, Aurélie, donc...
Mais il invoque ces raisons-là ou...
Je ne sais pas. À moi, en tout cas, devant moi, on ne les invoque pas. Moi, je suis au courant de rien. Mm-hmm. Moi, Aurélie me dit qu'elle veut arrêter l'école parce qu'elle en a marre, parce qu'elle ne me dit pas le pourquoi du comment. J'aurais dû mettre des barrières, sauf que je ne l'ai pas fait. Et puis cacher Aurélie, puisque Aurélie était cachée. Il y a ça aussi,
Qu'entendez-vous par là?
Personne ne connaissait dans sa famille l'existence d'Aurélie et de sa fille. Bon, pour moi, c'était pas normal. Lui, il était venu dans notre famille, il était reçu, il était accepté. Et pourquoi l'inverse? Disons que c'est les vraies réponses, elle ne les a jamais eues. Bon.
Quand, finalement, vous commencez à déceler qu'il y a quelque chose qui ne va pas?
Pratiquement à la fin. Moi, je travaillais et ce jour-là, j'ai reçu un appel. Et c'était lui qui me téléphonait pour me dire qu'Aurélie avait fait un malaise chez elle. Bon. Donc, j'ai quitté mon travail, bien sûr, 4 à 4. Je suis arrivée chez ma fille. Ma fille était couchée dans le lit. Et là, j'ai vu une touffe de cheveux qui lui avait été arrachée. Donc ma fille faisait semblant d'être inanimée ce jour-là. Parce qu'elle m'a pris la main, je lui ai parlé, Aurélie, qu'est-ce qui t'arrive ? Elle m'a pris la main et elle m'a serrée. Et là, j'ai compris que, voilà, ça voulait dire, maman, je peux pas te parler, il est à côté, mais il faut faire quelque chose. Donc là, on a appelé les pompiers, qui me l'ont emmenée à l'hôpital. Et vu qu'elle était mineure, à l'hôpital, ils pouvaient me la protéger, Aurélie, me la mettre dans un foyer, mais ils pouvaient me prendre qu'elle. La petite, ils ne pouvaient rien faire. Voilà. Donc Aurélie a préféré rien dire, ne pas porter plainte et puis repartir chez elle avec ça. Voilà. Aurélie, elle m'a toujours vu me taire face à son père, accepter les coups. Donc je pense qu'elle aussi s'est dit, oui, finalement, la vie de femme, c'est ça. C'est ce que maman a eu pendant 15 ans.
Vous vous rappelez pourquoi vous n'êtes pas partie ?
Je suis pour la mauvaise raison, tout simplement. On reste parce qu'on dit on reste pour les enfants.
Ouais.
Mais il faut partir. Et moi, je reste persuadée que je suis responsable de... On a beau me dire que non, mais... Voilà, si j'avais donné un autre exemple de vie à ma fille, peut-être qu'elle n'aurait pas accepté.
Quel sentiment il y avait entre ces deux jeunes gens ? Quel sentiment ? Est-ce qu'il y avait encore de l'amour au bout de ces coups à répétition ?
Ah oui, pour moi, j'ai toujours dit que... Il l'aimait.
Il l'aimait.
Pour lui, c'était sa possession. Le premier homme qu'elle a eu, c'était lui. Donc voilà. Donc déjà, pour lui, c'était sa femme. Et Aurélie, il l'aimait aussi. Jusqu'à 2 mois avant sa mort, elle l'aimait. Voilà. Mais sauf que... c'est pas ça, l'amour, quoi. C'est tout simplement. L'amour, c'est pas ça.
Alors, en 2007, vous allez... poser un ultimatum à Aurélie.
J'ai dit à ma fille, c'est plus possible. Il va falloir que tu fasses un choix entre lui ou nous. Elle m'a dit, mais oui, maman, t'as raison. C'est vous. Choisis-vous. Là, elle avait vraiment pris la décision d'arrêter tout. Et elle a tenu. Elle a tenu.
Ça vous est arrivé de penser qu'elle pouvait mourir un jour
Non. Il pouvait pas la tuer. Je pensais pas. Jamais j'aurais pensé à ça. J'y ai vraiment pensé quelque temps avant sa mort. Parce que là, il m'a dit ouvertement, moi, je referai ma vie, mais pas Aurélie.
Après 7 ans de vie commune et 2 naissances, Aurélie met un terme à sa relation et revient vivre dans le même immeuble que sa famille. Parmi ses frères et sœurs, Aline est celle dont elle était la plus proche. Elle avait clairement conscience des menaces qui pesaient sur sa sœur.
Aurélie se sentait en danger. Pour vous dire, Aurélie, dans sa voiture, avant le drame, en fait, elle avait des couteaux de cuisine dans sa boîte à gants de voiture.
Finalement, avant que cette fameuse soirée, vous le sentez comment, lui ?
Dès que sa voiture bougeait, il l'appelait. Il savait que sa voiture avait bougé. Si c'était pas lui qui l'a guetté, parce que je pense qu'il avait aussi des choses à faire, c'était des copains, lui. Elle sortait en course... Il pouvait l'appeler, lui dire « je t'ai vu, t'étais à tel endroit, à telle heure ». Donc oui, elle était surveillée.
Menacée ?
Menacée, oui. Par lui, oui.
Ouais.
Ouais. Mais moi, je pensais que c'était que des paroles. Je pensais pas que ça allait aller jusque-là. Mmh. Je pensais vraiment pas.
Libérée de ses années de violence, Aurélie recommence à vivre comme une jeune fille de son âge. Elle sort, fait de nouvelles rencontres, ce qui attise la jalousie du père de ses filles. Le samedi 19 mai 2007, Aurélie et Aline empruntent la voiture de leur mère pour se rendre en boîte de nuit. Il est 23h30 et sur la route, elles s'aperçoivent qu'un véhicule les a prises en chasse.
On a fait peut-être 2 km et en fait, il y a la route principale et sur la route principale, à droite, il y a un petit belvédère. Et en fait, on a vu une voiture qui a commencé à nous suivre à partir de là. Donc pour moi, il était déjà posté sur la route et il attendait.
Elle remarque tout de suite, Aurélie, elle est quand même à l'affût. Hein,
Oui, mais parce que la voiture nous collait.
Elle vous collait ?
Oui, la voiture nous collait, ça a accéléré. Donc là, elle m'a dit tout de suite, hein, et sous la panique, hein, parce qu'elle était paniquée, elle m'a dit, je suis sûre, c'est lui. Et là, une voiture nous a doublés et nous a bloqués. Et là, forcément, Aurélie s'arrête parce qu'on n'avait pas le choix. Mmh. On n'avait pas le choix. Il sort de la voiture et là, ça a commencé les insultes, ça a commencé les coups. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai paniqué. Je suis sortie de la voiture, je suis allée à l'arrière de la voiture, et là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma mère, et j'ai essayé de dire à ma mère, « Maman, il nous a trouvés. »
Je me rappelle au téléphone, j'entends Aline hurler, j'entends Aurélie hurler, j'entends lui hurler, mais on ne sait pas où elles sont. Et là, j'ai appelé les gendarmes pour leur dire, « Écoutez, je viens d'avoir un appel de mes filles, elles hurlent, mais je ne sais pas où elles sont, je ne sais pas. » Et bah, les gendarmes, ils n'ont pas fait grand-chose, il n'y avait rien à faire. Hein. Voilà, un coup de téléphone, deux gamins qui hurlent, voilà, pour eux, ça s'arrêtait là, quoi.
Il a gardé les téléphones, mais il a jeté les clés de la voiture. Donc on n'avait, en fait, aucune chance. Il a pris une bûche en bois et il a tapé Aurélie au visage avec cette bûche en bois, en fait.
Au visage?
Ouais. Voilà, vu qu'elle restait dans la voiture, il a pris la bûche et voilà, il a fait des gestes comme ça, en fait. Donc Aurélie, bah, elle s'est pris des coups de bûche sur le visage, quoi. Donc à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Mais bon, j'ai 16 ans, je suis toute menue. Donc ouais. Face à un homme de voilà, sa taille, je pouvais rien faire. Donc
il est aussi grand que moi, hein, disait Christine.
Il est grand.
Il est musclé. Ouais.
Et elle est sortie de la voiture. Elle est partie pas en courant. Elle est partie en titubant, en marchant. Et à un moment, elle m'a dit, Aline, appelle les secours. Je peux plus respirer. Et là, je lui ai dit, Nini, j'ai plus, parce que son surnom, c'était Nini. Je lui ai dit, Nini, j'ai pas de téléphone. Je peux rien faire. En fait, je me suis sentie impuissante. Et là, je l'ai vu s'enfoncer dans le bois et lui, il a essayé de la suivre. Il est revenu au bout de peut-être une minute et là, il lui a hurlé, quitte à faire le bois toute la nuit, je te retrouverai et je t'égorgerai. Et là, il est parti.
Alors, il a essayé de me joindre, moi, sur mon téléphone.
Ouais.
Et là, il m'a dit, j'ai tapé ta fille. Non, elle a reçu.
Ouais, elle a reçu, ouais.
Elle a reçu.
Ouais.
Je sais pas où elle est, et il a raccroché. Et il m'a dit, j'ai laissé Aline avec les clés de ta bagnole.
Mais dans la nuit noire, impossible pour Aline de retrouver les clés de la voiture. Sans nouvelles de sa sœur, elle revient chez elle à pied pour prévenir leur mère. Comprenant l'urgence de la situation, les gendarmes décident cette fois d'intervenir. 3 heures se sont écoulées depuis qu'Aurélie a pris la fuite seule dans la forêt. Aux côtés des gendarmes, Aline et Nathalie entament les recherches.
On a commencé à faire le bois avec des lampes. Et il y a un des gendarmes qui me dit, il y a une forme par terre.
Ouais, y a une
Elle
forme.
Est là. Et là, il s'est arrêté. Ils nous ont empêchés de descendre toutes les deux.
Ouais, ils nous ont interdit.
Mais j'ai eu un courant d'air froid qui m'a traversé tout le corps. Et à partir de là, j'ai dit à Aline, on ne reverra plus jamais ta sœur vivante.
Arrivé à l'hôpital, en fait, donc... ça se passe comment ?
Le neurochirurgien directement est venu me voir avec les radios d'Aurélie en me les montrant, en me disant elle a déjà la moitié du cerveau qui est mort.
Elle était méconnaissable, défigurée, mais j'ai pas reconnu ma sœur en fait. C'était, impossible de la reconnaître. On boursouflait de partout, des points de suture. Elle avait un bandage sur la tête. Donc, c'est des choses. Bah, qui choque. Et c'était pas Aurélie. Moi, je l'ai pas reconnue, ma sœur. C'était méconnaissable.
Oui.
Donc, l'hôpital, ils nous ont dit, elle est dans le coma, mais il faudrait aller lui chercher du parfum, de la musique qu'elle aime écouter. Et là, le service m'appelle en me disant, écoutez, on vient de refaire un examen cérébral, et là, Aurélie, elle est décédée. Donc, il va falloir la débrancher. Et après, on a voulu se mettre tous autour d'Aurélie. Mais tous, hein. On s'est tous mis en bloc autour d'elle. On lui a tous donné la main. Et on l'a laissé partir. Donc, ils nous l'ont débranché. Et 2 minutes après, Aurélie est partie.
L'ex-compagnon d'Aurélie est arrêté par les gendarmes dès le lendemain. Privés en une nuit de leur mère et de leur père, les enfants du couple, âgés de 4 ans et de 9 mois, sont alors pris en charge par Nathalie.
Dès qu'Aurélie est décédée, j'ai demandé à avoir un pédopsychiatre pour qu'on me dise comment je devais expliquer la mort à deux enfants. Et la pédopsychiatre m'a dit, il faut vraiment poser les mots « mort ». Il faut vraiment lui dire que leur maman est morte. Et j'ai dit, oui, mais la petite à 9 mois, elle m'a dit, c'est pas grave. Il faut lui dire aussi, elle va entendre, elle va entendre. Donc j'ai pris mes deux petites filles avec moi dans une pièce à part. Et je leur ai expliqué que leur maman était morte. Et la plus grande, son premier mot, ça a été « c'est papa qui a fait l'accident à maman ». Voilà, c'est là que j'ai compris que la petite, enfin la plus grande, avait déjà vu des scènes. Parce que pour me sortir, c'est papa qui a fait l'accident à maman. Voilà, donc elles ont bien compris que leur maman était morte. Donc le soir, on s'est tous réunis dehors et on a dit « voyez les filles, vous regardez dans le ciel et la plus belle étoile, celle qui brille le plus, c'est maman. » J'essayais de trouver quelque chose pour les aider, elles, à avancer avec la mort de leur maman, quoi, tout simplement.
Et dans ces jours qui suivent, vous recevez la visite de la famille de l'agresseur, de votre fille ?
Oui. Donc moi, j'ai la maman de l'agresseur qui est venue. En me disant, toutes les deux, on a perdu un enfant. Je lui ai dit non, non. Vous, votre fils, vous pouvez aller le voir en prison. Vous allez aller le voir, vous allez lui rendre visite, il va sortir de prison. Moi, ma fille, j'ai plus rien.
La violente agression et la mort de sa sœur ont profondément choqué Aline. Encore adolescente, la jeune fille a beaucoup de mal à affronter ce traumatisme.
Au début, j'avais beaucoup de culpabilité, ce que je me suis dit, en fait, pourquoi ce soir-là, j'ai pas eu le réflexe de prendre une pierre et peut-être de lui taper sur la tête. Je me dis, peut-être je l'aurais assommée et ma sœur, elle serait encore là. Et en fait, je m'en suis toujours voulu de pas avoir ce réflexe-là. Et je mangeais plus, je dormais plus. Pourtant, on essayait de me faire manger, mais en fait, c'est mon corps, il refusait. J'ai été sous calmant, je suis descendue à 35 kilos et en fait, ouais, tellement la culpabilité que on se dit, je vais mettre fin à mes jours parce que je supporte plus en fait. Je supporte plus. Et je l'ai fait à deux reprises et jusqu'au jour où je me suis réveillée à l'hôpital et il y avait ma mère et mon beau-père qui sont mis à pleurer et qui m'ont dit non, on a perdu Aurélie, on peut pas te perdre toi non plus, quoi. Et après, je me suis rappelée aussi que j'avais fait une promesse à Aurélie sur son lit de mort et je lui avais promis, je lui ai dit. Que je me battrai pour le procès et pour qu'il soit puni. Et après, je me suis dit, il faut vraiment que je tienne cette promesse. Donc en fait, le procès, ça m'a aidé à me raccrocher, à me... Ouais, en fait, je me suis raccrochée au procès aussi pour pouvoir me relever. Parce que pour moi, c'était important qu'il soit puni.
Le procès arrive, donc.
Ça a été... Je sais que, ça a été une période... On va dire qu'une semaine avant le procès, ça a été tout se bouscule. Et elle, pendant une semaine avant le procès, tous les soirs, elle voyait son avocat pendant une heure. Elle sortait, elle était en larmes. Jusqu'à la veille du procès, elle lui a dit « Mais j'y arriverai pas, je pourrais pas. »
Je pensais que je pourrais pas. Je me suis
et
dit,
il lui
je
a dit
«
Ne t'inquiète pas. Dès que tu vas être à la barre, que tu vas commencer à parler, Aline, tes souvenirs, tout va te revenir. » Et effectivement... Elle a été costaud.
2 ans après la mort d'Aurélie, l'accusée comparaît libre devant la cour d'assises du Jura, à Lons-le-Saunier. L'enquête a révélé qu'en plus de ses blessures, Aurélie avait des traces de semelles imprimées en bas du dos. Cette nuit-là, son corps a été retrouvé au pied d'une falaise. Tout l'enjeu du procès est là. Aurélie est-elle tombée dans sa fuite ou a-t-elle été poussée ?
Pour moi, le but, le premier, c'était qu'Aurélie soit reconnue comme victime. Aurélie, elle n'a rien demandé à personne ce soir-là. Elle partait pour aller danser et s'amuser. Elle est morte. Voilà. Et elle n'est pas morte toute seule. Il y a eu quelqu'un qui a engendré tout ça.
Est-ce que vos avocats vont émettre l'hypothèse que l'auteur des coups a pu pousser Aurélie.
Moi, mon avocat, moi, on reste persuadé, il l'a amené à plusieurs reprises, que justement, quand il y a eu la période où Aline est repartie et qu'il y a eu quand même un certain laps de temps, qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas pu revenir ?
En 3 heures.
En 3 heures de temps, tout est faisable.
Mais si cet homme avait évoqué l'amour pour justifier de son geste fou, est-ce que ça aurait été entendable.
Enfin, quelque part, je me serais dit, il reconnaît enfin l'avoir aimé, et que, ouais, il est devenu fou parce qu'il a senti qu'il a perdu. Ouais. Mais, bon, j'aurais pas pardonné pour autant, hein, parce que moi, il m'a enlevé mon amour. Mais peut-être qu'il y aurait... On serait peut-être moins resté sur des non-dits, tout simplement. Mm-hmm. Donc on restera jusqu'à la fin de notre vie, que ça soit moi, que ça soit Aline, que ça soit même ses filles, avec qu'est-ce qu'il a réellement fait ce soir-là.
Au bout du compte, quel a été le verdict donc, de ce procès?
Alors, il a été reconnu donc violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sur conjoint, et il a été condamné à 6 ans d'emprisonnement.
Elle était comment, cette peine, pour vous?
Je ne m'attendais pas à plus, je ne m'attendais pas à moins. Aurélie était une victime, lui condamné, point barre.
Il faut que la justice soit plus sévère, parce qu'il y en a de plus en plus des femmes qui décèdent sous les coups de leurs compagnons. Et en fait, c'est fait en toute impunité. Donc même si une personne, elle prend 3 ans, elle ressort, elle refait sa vie. Et c'est reparti. Donc voilà, c'est ce qui est arrivé d'ailleurs pour Aurélie. Il est ressorti, il a récidivé. Donc, et il a pris que du sursis. Donc c'est là que je me dis, il y a un problème, il y a un réel problème. On attend quoi? Qu'il recommence encore une fois?
Mais il recommencera.
Et il recommencera, puisqu'il l'a déjà fait.
Après le procès, Nathalie reprend difficilement le cours de sa vie dans le Jura. Elle est soutenue par l'une de ses amies, Anne, qui a été victime de violences psychologiques de la part de son mari. À l'époque, Nathalie a obtenu la garde de ses 2 petites filles. Mais elle n'a officiellement qu'un statut de tiers digne de confiance, ce qui veut dire qu'elle ne peut prendre aucune décision administrative les concernant. Leur père, lui, malgré sa condamnation, n'a pas été déchu de ses droits parentaux.
Il y a un moment où vous décidez de quitter la région.
Oui.
Comment tout ça s'est passé? Comment ça a mûri?
Un ras-le-bol. Un ras-le-bol de tout. Un ras-le-bol de passer tous les matins devant la falaise où on a retrouvé Aurélie. Je croisais sans cesse la famille de l'agresseur d'Aurélie. Lui, enfin, pour moi, c'était devenu invivable.
Ouais. Invivable. Cet homme est vite sorti de prison. Hein.
Oui, je pense qu'il a dû faire 2 ans et demi, si mes souvenirs sont bons. Donc, ouais. Ça a été vraiment rapide, quoi. Donc, j'ai dit, ben, moi, je vais partir. Sauf que ben, je ne pouvais pas partir comme ça.
À cause des 2 petites filles. Hein.
Ben voilà. Donc, bon, j'ai fait les choses dans les règles. J'ai demandé à rencontrer le juge pour enfants. Qui m'a dit « Ah non, 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 vous ne partez pas, il faut rester ici. » Donc j'ai demandé des explications, pourquoi ouais. Je dois rester ici? Eh bien parce que fallait tout simplement que je laisse au géniteur des 2 petites le temps de recréer des liens avec ses filles. Et je suis partie. J'ai pris mes petites filles, j'ai pris un camion de location, j'ai mis le peu que j'ai pu charger dans une voiture, dans un camion, et je suis partie. C'est lui, quand il a su que j'étais partie, qui tout de suite a demandé une audience d'urgence en disant que j'avais enlevé les enfants. J'ai fait 24 heures de garde à vue, rapt d'enfants. Et on me les a retirés le 26 décembre. Voilà.
Ça a dû être terrible.
Et elles ont été, on leur a retiré encore une fois leur famille, quoi. Donc tous leurs repères, ça a été affreux.
Parce que finalement, ces 2 petites filles avaient toujours été avec leur mère.
Oui.
Et du jour de la mort de leur mère, oui. Elles étaient avec vous.
Ah oui, oui, moi, pendant 7 ans, c'était ma raison de vivre. Enfin, voilà, je me levais le matin pour elles.
Oui.
Je me suis battue, on va dire que j'avais sorti la tête de l'eau pour elles.
Ce qui prédominait finalement pour la justice, c'était que vos petites filles aient un lien...
Avec leur géniteur.
Après avoir été placées dans un foyer pendant 1 an, les 2 filles d'Aurélie sont aujourd'hui élevées par Audrey, leur tante. Nathalie, elle, a quitté le Jura pour la Mayenne et ne les voit malheureusement que rarement. Mais elle s'interroge inévitablement sur leur avenir.
Je sais qu'elles sont protégées quand même assez de tout ça, mais il y aura des questions. Quand elles en auront l'envie et surtout plus de maturité pour prendre à cœur le dossier, ben elles pourront le consulter et avoir leur vérité à elles.
lorsque vous entendez des gens dire « on se remet de tout », est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
On se remet, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un bout de moi qui restera à vif toute ma vie. Mais on se remet, oui, oui, oui. Mm-hmm. Et puis, il ne faut surtout pas baisser les bras, faut se relever. Il ne faut pas s'écouter, voilà.
Pourquoi avoir décidé de faire ce film ?
Alors, premièrement, pour la mémoire d'Aurélie. Et ensuite, parce qu'il y a encore des tas de jeunes filles, de femmes, d'hommes aussi, parce qu'il y a aussi des hommes battus,
ouais.
Mais qui vivent tout ça au quotidien. Et je me dis que si l'histoire d'Aurélie, ne serait-ce qu'un petit bout, peut éveiller, bah tant mieux. Ouais. Parce que elle, j'ai pas pu la sauver, mais il y en a plein d'autres encore à sauver.
Si vous aviez un vœu, là, tout de suite, qui pourrait se réaliser, ce serait lequel ?
Voir mes deux petites filles qui arriveraient là, au bout de la rue. Ça, ouais, ça serait beau.
En attendant, portez-vous bien.
Merci pour tout.
Et merci à vous, surtout, d'avoir eu courage de raconter votre histoire et celle des vôtres.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt.
Au revoir. À bientôt.
Au revoir.
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une production Europe 1 Studio. Réalisation, Christophe Davio. Diffusion, Lisa Soster. Pour écouter la prochaine histoire, suivez-nous sur votre plateforme préférée. Merci de votre fidélité et à très bientôt.